Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs dans quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président américain Donald Trump rencontrera le président indonésien Joko Widodo au G20. Toutes les composantes nationales doivent sauver l'Indonésie par la conscience de la défense d'État. Le rôle des diplomates d'Al-Azhar en Indonésie doit être amélioré. L'ambassadeur d'Espagne a rencontré Wiranto pour ouvrir la coopération de l'éradication du terrorisme. Banyuwangi est ciblée comme la destination touristique mondial. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a affirmé à Jakarta mercredi 21 juin que le président américain Donald Trump a le projet de tenir une réunion bilatérale avec le président indonésien Joko Widodo en marge de la réunion du G20 qui aura lieu à Hambourg, en Allemagne, du 7 au 8 juillet. Mardi soir, par téléphone, la ministre Retno et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson ont également discuté du G20. Il a expliqué que le soutien du président Donald Trump est basé sur son admiration pour le contenu des discours prononcés par le président Joko Widodo lors d'un sommet des pays islamiques et des États-Unis à Riyadh en mai dernier.
Adanya rencana pertemuan bilateral antara
En particulier, il existe un projet de rencontre bilatérale entre le président Trump et le président Joko Widodo en marge de la réunion du G20. Nous avons discuté de plusieurs questions que les deux présidents sont susceptibles de discuter, entre autres la menace du terrorisme. Le secrétaire d'État américain a déclaré que lors d'une réunion au sommet de Riyadh, le discours du président a rendu le président de Trump très impressionnant. Par conséquent, il souhaite suivre le contenu du discours avec les possibilités de coopération qui peuvent être faites dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Le ministre Retno Marsudi a déclaré que dans cette conversation, l'Indonésie a également encouragé les États-Unis à contribuer à la crise des pays du Golfe et du Qatar. Afin de ne pas aggraver, le dialogue peut être fait immédiatement. Selon elle, les États-Unis ont également remercié l'Indonésie d'avoir initié une réunion trilatérale entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines pour discuter du cas de mouvement de radicalisme et de terrorisme jeudi le 22 juin. C'est une manifestation de l'engagement de l'Indonésie dans la région. L'Indonésie a promis de continuer à mettre à jour son engagement et à lutter contre le terrorisme. Le gouvernement indonésien continue à développer un programme de la défense d'État pour les Indonésiens. La défense d'État est devenue une obligation pour les Indonésiens afin d'aimer leur patrie. Cela a été dit par le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizar Triakudu, lors d'une conférence de presse après la signature du mémorandum d'accord entre le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Triakudu, et la ministre de la Loi, des Droits et de la Justice, M. Yasona Lauli, dans le lancement de Bella Indonesiaku et la soumission de DVD de la chanson intitulée Bella Negara pour les enfants au ministère de la Défense mercredi. La défense d'État est de sensibiliser des citoyens pour défendre l'État, donc la conscience de défendre le pays en réveillant simplement la conscience. Pour nous qui ont été conscience, nous devons sensibiliser la défense d'État. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la défense d'État, nous devons les sensibiliser car la défense d'État est importante. Pourquoi? Tout d'abord, il y a déjà la loi comme l'instruction de l'État pour nous. Deuxièmement, nous devons remercier Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons possédé une Indonésie extraordinaire. Nous sommes reconnaissants d'être donnés à ce pays. Le ministre Ria Mirza Triakudu a également demandé aux gens d'être reconnaissants l'existence de la nation et de l'État de l'Indonésie. Selon lui, si les Indonésiens se comparent à certains pays du Moyen-Orient, donc le nombre de réfugiés quittent leur pays parce que leur pays ne sont pas sûrs. Par conséquent, les Indonésiens doivent être en mesure de maintenir la souveraineté et l'intégrité de l'Indonésie. Les diplômés de Al-Azhar au Caire, l'Égypte, a joué un rôle dans le développement de l'Indonésie dans divers domaines. Cela a été dit par Murtada Bisri Elsi à RRI jeudi à Darassa, le Caire. Selon Murtada, les diplômés de Al-Azhar en Indonésie a joué un rôle important dans divers domaines, y compris dans le domaine de l'éducation, la politique et la littérature. La plupart des diplômés de Al-Azhar a joué le rôle dans le domaine de l'éducation à différents niveaux en Indonésie ou à l'étranger. Le rôle des diplômés doit être amélioré et si nous voyons le potentiel ou la composition des diplômés de Al-Azhar, ils doivent améliorer leur contribution et leur rôle dans le pays. Selon Murtada, depuis 2011, l'esprit de l'apprentissage des étudiants de Al-Azhar en Indonésie augmente qu'auparavant. Non seulement d'étudier sur le campus, ils apprennent aux savants de Al-Azhar en Égypte. Murtada espère que les diplômés de Al-Azhar qui reviennent en Indonésie doivent être prêts à partager leurs connaissances pendant leurs études en Égypte et ils puissent devenir un da'i qui répande l'islam dans la nation indonésienne et de réaliser un pays sécuritaire et prospère. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de coordinateur des affaires politiques, justice et sécurité, M. Wiranto, a rencontré l'ambassadeur espagnol en Indonésie, José María Matres Manso. À cette occasion, l'ambassadeur José María Matres Manso propose un concept de coopération entre l'Indonésie et l'Espagne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et le système principal d'armement. L'ambassadeur José est connu pour surmonter le problème du terrorisme et est actuellement désigné comme ambassadeur au Mali. Il a été dit par le ministre Wiranto après une réunion à Jakarta Central récemment. Il a bien apprécié cette offre. Selon lui, l'Indonésie doit établir une coopération avec de nombreux pays dans la lutte contre le terrorisme. Il est convaincu que l'Espagne peut renforcer la tâche principale et les fonctions de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, fixe des objectifs de Banyuwangi comme destination touristique mondiale parce que cette région possède une capacité touristique adéquate. Le ministre Yahya, tout en inaugurant un hôtel à 4 étoiles à Banyuwangi, Java Est, a déclaré qu'il continuerait à s'efforcer pour qu'en 2019, Banyuwangi devienne une destination touristique mondiale. Banyuwangi possède beaucoup de potentiel pour devenir une destination touristique mondiale. L'un d'entre eux et la cratère Igen, connu avec le feu bleu, qui est une destination favorite pour les touristes étrangers, et il n'y a que deux dans le monde. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Comme d'habitude, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le conflit en Ukraine de l'Est et les relations entre les États-Unis et la Russie. Les relations américaines avec la Russie sont encore entravées par les conflits en Ukraine de l'Est. Les développements récents montrent que les États-Unis imposeront toujours des sanctions à la Russie avant de retirer ses troupes de l'Ukraine de l'Est. Les conflits armés dans l'Est de l'Ukraine se sont déroulés depuis le 7 avril 2014. La guerre en Ukraine de l'Est se produit en tant que guerre civile entre les troupes ukrainiennes et les forces de la République populaire de Donetsk, ou MRN, et de la République populaire de Lugansk, LNR, qui a proclamé son indépendance de l'Ukraine. La bataille s'effondra légèrement le 12 avril 2015. Une fois la situation améliorée, une nouvelle bataille s'est multipliée depuis que la Russie a envoyé ses troupes. Une déclaration sur les sanctions persistantes contre la Russie est venue après que le président Donald Trump a rencontré mardi le président ukrainien Poroshenko. À la suite de la réunion, le département particulier ou aux entités américaines de faire les affaires avec l'industrie de la défense, le renseignement, de l'exploitation minière, les navires et ferroviaires et des restrictions à la coopération avec les banques et les sociétés énergétiques russes. Répondant à la déclaration de Washington, le gouvernement russe a répondu avec une déclaration difficile. En plus d'ignorer les dernières sanctions imposées, la Russie a déclaré qu'elle répondrait à l'action des États-Unis. Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, comme rapporté par l'agence de presse russe TASS, a déclaré que la sanction supplémentaire des États-Unis n'est pas très constructive. Le Kremlin pense également que Washington ne veut pas vraiment résoudre le problème en Ukraine. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, nous vous racontons encore dans notre rubrique quotidienne. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'édition 23 juin, on va commencer le 23 juin 1956, Nasser, président d'Égypte. Au terme d'un référendum où 99,84% des votants se sont portés sous son nom, Gamal Abdel Nasser est élu président de la République. Depuis l'éviction de Mohamed Naguib en 1954, Nasser est devenu le chef de la révolution égyptienne et a su s'imposer comme l'un des leaders du tiers-monde à la conférence de Bandung en 1955. Le Rey sera à la tête de l'Égypte jusqu'à sa mort en 1970. En sens, le 23 juin 1993, un mathématicien, Andrew Wiles, prouvait le dernier théorème de Fermat à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. En sens, le 23 juin 1985, un Boeing d'Air India explose en vol. Le 329 passagers du Boeing 747 d'Air India sont tués dans l'explosion de leur appareil au-dessus de la mer d'Irlande. L'avion assurait la liaison entre Toronto, Canada et New Delhi. L'enquête montrera qu'il ne s'agit pas d'une erreur technique ou humaine, mais d'un attentat à la bombe commis par les extrémistes sikhs. Les sikhs demandent notamment la création d'un Khalistan indépendant. On termine le 23 juin 1994, opération Turquoise au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'opération française au Rwanda, Afrique centrale. Les casques bleus français ont pour mission de protéger les civils et la distribution de l'aide humanitaire. Depuis la mort du président Juvénal Habyarimana en avril, la garde présidentielle et les miliciens Hutus ont perpétré un terrible massacre. Excepté l'intervention tardive de la France, les grandes démocraties n'ont pas réagi. Le génocide rwandais a fait entre 500 000 et 1 million de victimes pour une population de 7 millions d'habitants. Ces amis, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire ce soir et à demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, l'Indonésie et les Maldives renforcent la coopération dans divers domaines. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu une visite et a mené une réunion bilatérale avec son homologue des Maldives, Mohamed Asim, au bureau du ministre des Affaires étrangères à Jakarta, mercredi le 21 juin. La ministre Retno Marsudi a déclaré, après une réunion bilatérale, la coopération dans les secteurs du tourisme et de la protection des citoyens indonésiens devenait le sujet de discussion des deux ministres des Affaires étrangères. L'Indonésie et les Maldives sont d'accord pour renforcer la coopération commerciale en intensifiant les contacts entre les entreprises des deux pays. Madame Retno Marsudi a dit que l'Indonésie et les Maldives étaient les pays insulaires, donc la question du changement climatique est également un sujet de discussion. Les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang
Maldives pariwisata. Les Maldives sont très célèbres pour son tourisme et l'Indonésie a aussi un énorme potentiel touristique. Et nous avons convenu d'intensifier la coopération dans le domaine du tourisme, y compris le partage de l'expérience dans le domaine de la promotion. Dans le contexte du tourisme, nous avons 1400 Indonésiens aux Maldives et la majorité travaille dans le secteur du tourisme. La ministre Retno a expliqué que les deux ministres des Affaires étrangères avaient également discuté l'intensification de la coopération dans les domaines de la pêche et maritime. Après une visite au ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères des Maldives rencontrera la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti. Madame Retno Marsuda a expliqué, les deux pays intensifieront également la coopération dans le domaine de l'amélioration de la coopération technique. Jusqu'à présent, l'Indonésie a fourni une formation dans le domaine de la gestion des catastrophes, la pêche, la démocratie, la bonne gouvernance et la télévision. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également parlé des efforts liés aux Maldives pour établir la connectivité et l'Indonésie offre ses produits dans la fourniture de modes de transport aux Maldives. À cette fin, le ministre des Affaires étrangères des Maldives se rendra à PT Dirgantara Indonesia. Selon lui, d'année en année, il y a une tendance positive dans le commerce entre les deux pays. Selon Mme Retno, les Maldives sont l'un des marchés non traditionnels qui est potentiel considérable pour l'Indonésie. Jusqu'à présent, la valeur totale des échanges bilatéraux entre l'Indonésie et les Maldives a augmenté d'environ 12,21% par an pour la période 2010-2016. La valeur commerciale en 2016 est favorable pour l'Indonésie qui a atteint 39,08 millions de dollars américains. Cette somme a augmenté par rapport à l'année précédente qui n'atteint que 32,20 millions de dollars américains. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a affirmé à Jakarta mercredi 21 juin que le président américain Donald Trump a le projet de tenir une réunion bilatérale avec le président indonésien Joko Widodo en mars de la réunion du G20 qui aura lieu à Hambourg, en Allemagne, du 7 au 8 juillet. Mardi soir, par téléphone, la ministre Retno et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson ont également discuté du G20. Il a expliqué que le soutien du président Donald Trump est basé sur son admiration pour le contenu des discours prononcés par le président Joko Widodo lors d'un sommet des pays islamiques et des États-Unis à Riyad en mai dernier. En particulier, il existe un projet de rencontre bilatérale entre le président Trump et le président Joko Widodo en mars de la réunion du G20. Nous avons discuté de plusieurs questions que les deux présidents sont susceptibles de discuter, entre autres la menace du terrorisme. Le secrétaire d'État américain a déclaré que lors d'une réunion au sommet de Riyad, le discours du président a rendu le président de Trump très impressionnant. Par conséquent, il souhaite suivre le contenu du discours avec les possibilités de coopération qui peuvent être faites dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Le ministre Retno Marsudi a déclaré que dans cette conversation, l'Indonésie a également encouragé les États-Unis à contribuer à la crise des pays du Golfe et du Qatar afin de ne pas aggraver et le dialogue peut être fait immédiatement. Selon elle, les États-Unis ont également remercié l'Indonésie d'avoir initié une réunion trilatérale entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines pour discuter du cas du mouvement de radicalisme et de terrorisme jeudi le 22 juin. C'est une manifestation de l'engagement de l'Indonésie dans la région. L'Indonésie a promis de continuer à mettre à jour son engagement et à lutter contre le terrorisme. Le gouvernement indonésien continue à développer un programme de la défense d'État pour les Indonésiens. la défense d'État est devenue une obligation pour les Indonésiens afin d'aimer leur patrie. Cela a été dit par le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Triakudu, lors d'une conférence de presse après la signature du mémorandum d'accord entre le ministre indonésien de la Défense, Riamizar Triakudu, et le ministre de la Loi, des Droits et de la Justice, M. Yasona Lauli, dans le lancement de Bela Indonesiaku et la soumission de DVD de la chanson intitulée Bela Negara pour les enfants au ministère de la Défense mercredi. La défense d'État est de sensibiliser des citoyens pour défendre l'État, donc la conscience de défendre le pays en réveillant simplement la conscience. Pour nous qui ont été conscience, nous devons sensibiliser la défense d'État. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la défense d'État, nous devons les sensibiliser car la défense d'État est importante. Pourquoi? Tout d'abord, il y a déjà la loi comme l'instruction de l'État pour nous. Deuxièmement, nous devons remercier Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons possédé une Indonésie extraordinaire. Nous sommes reconnaissants d'être donnés à ce pays. Le ministre Riamizar Triakudu a également demandé aux gens d'être reconnaissants l'existence de la nation et de l'État de l'Indonésie. Selon lui, si les Indonésiens se comparent à certains pays du Moyen-Orient, donc le nombre de réfugiés quittent leur pays parce que leur pays ne sont pas sûrs. Par conséquent, les Indonésiens doivent être en mesure de maintenir la souveraineté et l'intégrité de l'Indonésie. Les diplômés de Al-Azhar au Caire, l'Égypte, a joué un rôle dans le développement de l'Indonésie dans divers domaines. Cela a été dit par Murtada Bisri Elsi à RRI jeudi à Darussalam, le Caire. Selon Murtada, les diplômés de Al-Azhar en Indonésie a joué un rôle important dans divers domaines, y compris dans le domaine de l'éducation, la politique et la littérature. La plupart des diplômés de Al-Azhar a joué le rôle dans le domaine de l'éducation à différents niveaux en Indonésie ou à l'étranger. Le rôle des diplômés doit être amélioré et si nous voyons le potentiel ou la composition des diplômés de Al-Azhar, ils doivent améliorer leur contribution et leur rôle dans le pays. Selon Murtada, depuis 2011, l'esprit de l'apprentissage des étudiants de Al-Azhar en Indonésie augmente qu'auparavant. Non seulement d'étudier sur le campus, ils apprennent aux savants de Al-Azhar en Égypte. Murtada espère les diplômés de Al-Azhar qui reviennent en Indonésie doivent être prêts à partager leurs connaissances pendant leurs études en Égypte et ils puissent devenir un da'i qui répande l'islam dans la nation indonésienne et de réaliser un pays sécuritaire et prospère. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de coordinateur des affaires politiques, justice et sécurité, M. Wiranto, a rencontré l'ambassadeur espagnol en Indonésie, José María Matres Manso. À cette occasion, l'ambassadeur José María Matres Manso propose un concept de coopération entre l'Indonésie et l'Espagne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et le système principal d'armement. L'ambassadeur José est connu pour surmonter le problème du terrorisme et actuellement désigné comme ambassadeur au Mali. Il a été dit par le ministre Wiranto après une réunion à Jakarta Central récemment. Il a bien apprécié cette offre. Selon lui, l'Indonésie doit établir une coopération avec de nombreux pays dans la lutte contre le terrorisme. Il est convaincu que l'Espagne peut renforcer la tâche principale et les fonctions de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, fixe des objectifs de Banyuwangi comme destination touristique mondiale parce que cette région possède une capacité touristique adéquate. Le ministre Yahya tout en inaugurant un hôtel à 4 étoiles à Banyuwangi, Java Est a déclaré qu'il continuerait à s'efforcer pour qu'en 2019, Banyuwangi devienne une destination touristique mondiale. Banyuwangi possède beaucoup de potentiel pour devenir une destination touristique mondiale. L'un d'entre eux est la cratère Ijen, connu avec le feu bleu, qui est une destination favorite pour les touristes étrangers et il n'y a que deux dans le monde. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé La mosquée de Wawangi. Le mois de Ramadan n'est pas l'obstacle pour faire des activités touristiques. Vous pouvez apprendre la religion et passer des vacances en faisant des activités de tourisme religieux. Les sites touristiques religieux qui existent dans diverses régions en Indonésie peuvent être le choix, entre autres la mosquée de Wawangi, située sur l'île de Buton, Sulawesi du Sud-Est. Elle est la plus ancienne mosquée sur l'île de Buton. Elle se trouve au-dessus des montagnes du village de Wawangi, la résidence de Buton du Sud. La mosquée de Wawangi a été construite par Sheikh Abdul Wahid en 1527
est considérée comme la première mosquée sur l'île de Bouton. Le mot de Wawangi dans la langue locale, Sia Sia, ce qui signifie au-dessous du vent, de sorte que la mosquée est également connue sous le nom de la mosquée au-dessous du vent. Le roi de Murhum a changé le système de gouvernement du royaume et devenu le sultanat de Bouton. La structure de la mosquée de Wawangi est simple et petite par rapport à d'autres mosquées. Elle est unique. Tous les bâtiments sont en bois. Les murs de la mosquée sont faits en petit bambou. Le bambou est attaché avec une manière particulière. Et le toit est fait en bois de teck qui est mince, sans dôme, ou une tour à côté de la mosquée. En face de la mosquée, il y a des arbres de bois de santal et il y a aussi quelques de l'ancien cimetière qui est la tombe du sultan Bouton Pere VII, sultan de Saparagao. La mosquée de Wawangi est rarement utilisée pour la prière, car il se trouve assez loin des villages. Mais cette mosquée est toujours maintenue et entretenue par des villageois de Wawangi. De plus, dans les activités des coutumes locales, la mosquée est souvent utilisée pour faire le culte. Chers amis, c'était le magazine culturel intitulé La mosquée de Wawangi de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le festival musical Samosir Tobatak. En tant que forme d'amour et de contribution à la ville natale, les prochains mois, un concert de musique intitulé Samosir Music International Tobatak Festival 2017 aura lieu. C'est la troisième performance de ce spectacle après la mise en œuvre en août 2014 et 2016. L'événement aura lieu à Open Air Stage Tuk Tuk Siadong Samosir, Sumatra du Nord, le 12 août 2017. Dans chaque spectacle, en plus d'impliquer les musiciens et les artistes de Batak, le festival implique également plusieurs artistes européens qui chanteront des chansons de Batak. L'un des objectifs de cette activité est de donner la priorité à la musique et aux chansons de Batak. Comme on le sait, les deux concerts précédents ont réussi. Hendri Manik, un artiste né à Garuga, Samosir, il y a 40 ans, qui est également l'initiateur de cet événement, a expliqué que le festival Tobatak est le suivi des activités internationales de concerts de musique tenues en 2014 et 2016. Selon lui, la raison de choisir et d'utiliser le nom Tobatak Festival dans les prochaines activités est qu'à l'avenir, Samosir a l'identité d'un festival de musique international impliquant des musiciens d'extérieur de l'Indonésie avec des musiciens locaux. Hendri a ajouté, à la fin, Samosir pourrait avoir un festival de musique impliquant des musiciens et des artistes nationaux et étrangers comme d'autres festivals de musique connus à l'échelle internationale tels que Java Jazz Fest à Jakarta, Lowland Fest aux Pays-Bas, et Rainforest World Music Fest en Malaisie. Serta pour le spectacle de cette année, les artistes impliqués pour animer le festival sont Herman Delago, Nadine Beyer de JBS Band, les trois sont d'Autriche, Bernadette Astari des Pays-Bas, Vicky Sianipar et Bentongam Sirait, et aussi des artistes locaux tels que Jajabi Band, Supra Purba Tambak, Pangguaran e Sami Saraben. A une autre occasion, le ministre du Tourisme, Arif Yahya, apprécie cet événement musical. Il a déclaré que le plus souvent un concert de musique se déroule dans la région de l'Aktoba. Cette région est plus connue dans le monde entier. Brain of Lake Toba, l'une des 10 principales destinations touristiques en Indonésie, sera de plus en plus reconnue par les Indonésiens et la communauté mondiale. Ce festival devrait être l'une des performances musicales à la bonne qualité en Indonésie. Cela peut également aider à augmenter le nombre de touristes qui viennent à Samosir et au Lac Toba. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous vous présentons une rubrique musicale. Et ce soir, nous présentons des chansons de dangdut. Voici la première chanson intitulée Cinta Berbuah Duka, chanté par Ike Nurjana.
Jalan ingin ku berlari men. mencari kekasihku. Telah lama dia pergi, tinggalkan aku sendiri untuk sekedar berjumpa, melepaskan rindu di hati. Kunang-kunang malam tunjukkan aku jalan.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Chers amis, c'était la première chanson intitulée Cinta Berbuah Duka chantée par Ika Nurjana. Elle est une chanteuse de dangdut qui a un son distinctif et largement connu par le public indonésien. Ika ne rêvait jamais de devenir une chanteuse professionnelle car elle préfère d'être une enseignante de maternelle. Ika Nurjana est l'une des chanteuses de dangdut connu dans ce pays. Elle est née le 18 mai 1974 à Jakarta. Son premier album, intitulé Ojo Lali en français, N'oubliez pas, a reçu une réponse positive de la communauté dans ce pays. Et jusqu'à présent, elle a publié des dizaines d'albums. Elle était célébrée par la chanson intitulée Terlena ou endormi. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Ike Nurjana intitulées « L'amour et le dilemme ».
Kenyang menunggu
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Ike Nurjana. Elle a reçu plusieurs prix tels que l'Académie de musique de l'Indonésie pour la catégorie meilleure chanteuse de dangdut 1997-1998 et 1999 et une chanteuse de dangdut la plus célèbre de SCTV en 2002. En 2005, Ike Nurjana a également remporté la Flûte d'or pour la catégorie une chanteuse célèbre. Grâce à dangdut, Ike Nurjana peut visiter de diverses régions, y compris à l'étranger. En 22 février 1998, elle a chanté à Asia Live Dream sous l'invitation de la station de télévision japonaise NHK. Bon, chers amis, nous allons écouter les deux dernières chansons de Ike Nurjana, intitulées « Fleur de Dahlia » et « Fleur de l'amour ». Merci à tous et à bientôt.
C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.